France Musique. Au rythme des années folles. À Paris, pendant la Première Guerre mondiale, la population n'a pas perdu l'art de s'amuser. On fit la fête au début pour se moquer de l'ennemi et se donner du courage. On poursuivit la fête ensuite pour distraire les permissionnaires. Puis quand trop d'horreurs eurent enlevé aux poilus l'envie de rire, la fête continua, pour se consoler, pour oublier. Après le conflit, une génération nouvelle rêve d'un monde nouveau et proclame « plus jamais ça ». Une nouvelle période de légèreté et de distraction commence, place aux années folles. Durant ces années dites folles, les quartiers de Montparnasse et Montmartre sont sans conteste les lieux de Paris les plus célèbres et les plus fréquentés. Ils abritent alors les incontournables cafés de la Coupole, du Dôme, de la Rotonde et de la Closerie des Lilas. Mais aussi les salons de l'audacieuse Gertrude Stein, rue de Fleurus. Cette américaine, figure incontournable du monde de l'art, est à la fois écrivaine, poétesse et esthète. La papesse de l'avant-garde s'est installée à Paris avec son frère en 1903. Depuis, les peintres Picasso, Matisse, Cézanne sont ses héros. Montmartre est l'un des centres majeurs de ces lieux de rencontre pour les intellectuels. On y écoute le trompettiste Arthur Brix, qui se produit à l'Abbaye, ou le saxophoniste et clarinettiste Sidney Bechet, au Théâtre de l'Apollon. Mais pour l'écrivain américain de la génération perdue, Henry Miller, le carrefour Vavin, Raspail, Montparnasse est, selon ses propres mots, le nombril du monde. Il y écrit d'ailleurs ses tropiques. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, eux aussi naviguent sur les flots de la rive gauche. Non loin d'eux, des exilés qui ont fui les dictatures méditerranéennes et balkaniques. Le lituanien Soutine, l'italien Modigliani ou le russe Chagall, ces peintres qui formeront l'école de Paris. À Paris, pendant les années 20, on cultive l'art de s'amuser. Les Parisiens sortent et découvrent les ballets suédois, compagnie d'avant-garde et grande rivale des ballets russes. Plusieurs spectacles vont marquer leur courte histoire. L'homme et son désir de Paul Claudel sur une musique de Darius Milhaud. Puis les mariés de la Tour Eiffel, dont Jean Cocteau écrit le scénario. Enfin, en 1923, un autre ballet voit le jour, La création du monde, sur un scénario de Blaise Cendrars. Fernand Léger réalise les costumes. Il fait alors surgir sur scène de gigantesques animaux, des oiseaux, des insectes ou encore des dieux totémiques. L'aventure des ballets suédois se termine en 1924 avec le ballet Relâche. Éric Satie et Francis Picabia collaborent à cette dernière aventure, une fin qui annonce la suite. L'élite fortunée n'est plus la seule à pouvoir profiter des loisirs. Les classes moyennes peuvent aussi en profiter. Elles se passionnent pour les spectacles de music-hall, mais aussi les nouveaux rythmes de jazz. Importé par les Américains quelques mois avant la fin de la guerre, le jazz connaît depuis une ascension et une popularité spectaculaire au sein de la population, mais aussi auprès des artistes qui s'en inspirent. Comme le musicien Igor Stravinsky dans son Ragtime en 1919, le peintre Fernand Léger, les poètes Jean Cocteau, Guillaume Apollinaire ou Blaise Cendrars. Alors, en 1925, quand le directeur du théâtre des Champs-Élysées cherche un second souffle, un nouveau type de spectacle, c'est Fernand Léger qui lui suggère une idée. Créer un spectacle entièrement joué par des Noirs. Le peintre est marqué par l'art nègre, récemment découvert. Tout comme ses complices, Apollinaire, Picasso ou Max Jacob, l'idée est lancée. Bientôt, 12 musiciens et 8 danseuses s'embarquent depuis New York vers Paris, la ville lumière. Le 2 octobre 1925, sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées, les Parisiens dont Robert Desnos, Francis Picabia et Blaise Cendrars découvrent la jeune danseuse Joséphine Becker. Vêtue d'un simple pagne de banane, elle danse une furie suggestive sur un rythme de Charleston. Un tableau baptisé « La danse sauvage ». Sidney Bechet est dans la fosse, la salle est sous le choc, mais le scandale fait rapidement place à l'engouement général. Joséphine Becker n'hésite pas à s'approprier le rôle de libératrice de son sexe. Par ses attitudes résolument modernes, elle contribue à accélérer cette révolution en la portant comme un symbole. Dans le Paris des années 20, le nom de Joséphine incarne un grand nombre de tendances, goûts et aspirations de l'époque. Elle n'est plus une personne, mais un concept. Elle devient la garçonne type. Les couturiers Jean Patou, Jeanne Lanvin ou Coco Chanel sont préoccupés de libérer le corps de la femme. Yeah. Joséphine devient alors le mannequin idéal. Et c'est Paul Poiret, le tueur du corset, qui la sculpte. Le vêtement se compose désormais d'une tunique légèrement attachée aux hanches, glissant le long du corps. La mode est à la simplicité. Elle devient surtout le fer de lance de la révolution féminine. Les années folles sont en effet l'occasion pour la femme, de classe sociale moyenne ou fortunée, de goûter à toutes sortes de nouvelles libertés. La guerre lui a appris à vivre seule. Sa place dans la société est définitivement modifiée. Alors elle se coupe les cheveux, se maquille, se parfume, fume en public et conduit sa voiture, symbole de modernité et d'élégance. La romancière Colette s'affiche en garçonne et fustige la lâcheté masculine. En 1920, elle publie Chérie, une autobiographie à peine voilée. Dans les cœurs, l'amour fait sa loi vainqueur. Le temps s'enfuit, nul ne dort. Déjà, c'est un lastre d'or. Mais les années 20 voient aussi apparaître une culture populaire. Grâce à la radio, toutes les classes de la société peuvent découvrir la chanson. Les vedettes du cabaret et du music-hall, Miss Tinguette et Maurice Chevalier, sont rapidement propulsées au rang de vedettes nationales, puis internationales. Ils deviennent très vite des emblèmes du mode de vie à la parisienne. Le music-hall remplace définitivement le café-concert. On va au casino de Paris, au concert parisien, comme on va au théâtre. Les spectateurs, les attractions et les chansons se succèdent sans relâche. Les productions artistiques connaissent une ascension fulgurante. L'influence américaine, le grand spectacle, les comédies musicales font le succès des folies bergères, les fameuses folles berges. La bête, un tout petit piton que je tâtais à tâtons. Outre la radio, l'autre grand média culturel en pleine expansion est le cinéma. La fin de la Première Guerre mondiale marque une rupture dans l'histoire du cinéma français. Une nouvelle génération de réalisateurs et de techniciens apparaît. De jeunes artistes viennent totalement renouveler la conception des décors et costumes d'écran. Ils sont issus non plus du théâtre, mais des beaux-arts et des arts décoratifs. Le cinéma se trouve ainsi au centre du foisonnement créatif des années folles. En 1927, il parle. Il faut se hâter de vivre, de faire la fête. On donne alors libre cours à une vraie soif de distraction. On va au théâtre, le temps est au spectacle léger. Et Sacha Guitry emporte un véritable triomphe au théâtre des variétés. Le public découvre aussi les pièces de Marcel Pagnol, Jean Anouilh, qui rencontrent un franc succès.
Il faut adorer les femmes pour avoir le droit d'en parler, puisque parler des femmes, c'est en dire du mal. Donc dire du mal des femmes, c'est vouloir en parler longuement, pour bien marquer l'importance qu'elles ont et la place considérable qu'elles tiennent dans notre existence.
Au cours des années 20, un véritable effort de création dans la mise en scène traduit aussi les inquiétudes et aspirations de l'époque. Jean Cocteau aborde la tragédie avec La machine infernale, puis Les parents terribles. La ville de Paris est dans les années 1920 la capitale des arts et le lieu privilégié des rencontres entre artistes et intellectuels. Man Ray photographie la capitale et la célèbre Kiki de Montparnasse. Mais le 24 octobre 1929, tout bascule à Wall Street. L'incroyable crise boursière sonne le glas de cette période d'insouciance, pour certains. C'est la fin d'une époque et le début de la Grande Dépression. L'orage des années 30 gronde sur l'Europe. Alors fallait-il seulement oublier?
À réécouter sur francemusique.fr.